Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine. Et ce matin, des conseils pour décorer votre intérieur à quelques jours de Noël. Quelles sont les dernières tendances? Le sapin artificiel est-il en train de supplanter le sapin naturel? Et puis, comment concilier les différents régimes alimentaires autour de la table du réveillon? Sans gluten, sans lactose, sans viande, sans sucre, ces régimes particuliers entament-ils la commensalité et la convivialité des fêtes? Notre chef, Angèle Ferremag, vous proposera des menus pour faire plaisir à chacun des convives. Daniel Gerkens de Elle à Table partagera des réveillons qui font voyager. Avant cela, Christy Lapelle-Edouel et Pierre Vavasseur vous conseilleront des livres qui font du bien. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Petite philosophie des cadeaux de Noël ce matin.
Oui, une sorte de guide d'achat philosophique des cadeaux, ça peut exister. Voilà.
Ça peut aider, c'est le côté ça serviciel.
De, exactement, de si on peut aider, eh ben, on se prive pas.
Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui deviendra notre pote cette semaine?
Wonder Woman. Voilà. Ça aussi, c'est serviciel.
Oui, pour le temps, là, c'est bien. Là. Il commence à pleuvoir, là, sur Paris. Bonjour, Maya Mazorette.
Salut, Ali.
Qui ne supporte pas que je la vous voie pendant l'émission. Tu nous proposes donc ce matin une géopolitique assez particulière.
Tout à fait, parce que je pense que dans cette émission, on n'aborde pas assez les vrais sujets. Et nous, c'est le service public, on fait du serviciel, donc on va faire de la géopolitique du sextoy.
Bon, oh, ben dis donc, restez avec nous, ça sera en fin d'émission. Nous attendons toutes vos questions et vos témoignages. Comment procédez-vous avec tous ces régimes alimentaires particuliers pendant les réveillons de fin d'année? Dites-nous également si vous êtes plutôt adepte du sapin artificiel ou du sapin naturel. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Christy Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Journaliste à Psychologie Magazine, co-autrice de la version poche de la revue Grand Bien Vous Fasse, La Puissance des Liens, disponible chez Pocket. Petit avant-goût de votre choix de livre?
Eh bien, le petit avant-goût, c'est le prix Psychologie FNAC, Eutsemeria, les quatre peurs qui nous empêchent de vivre. Je vous expliquerai ce que sont ces peurs et pourquoi.
Bonjour Pierre Vavasseur.
Bonjour Ali.
Nouveau venu dans la bande du vendredi, grand reporter, chroniqueur au Parisien Week-end. Alors il sera question tout à l'heure de parfums et d'odeurs dans votre choix littéraire?
Oui, parce que je suis tombé totalement amoureux, en mettant mon nez dedans, si je puis dire, de Jean-Claude Elena et Lionel Paillès, pour le petit lexique des amateurs épris d'odeurs et de parfums. C'est un livre formidable, je vous dirai pourquoi.
Bonjour Angèle Ferremag.
Bonjour Ali.
Chef de la guinguette d'Angèle à Paris et autrice de Bon, Simple et Sain chez Marabout. Alors, vous avez du boulot, vous aurez du boulot tout à l'heure pour contenter les végétariens, les sans gluten, les sans lactose, les sans viande pendant le réveillon. Hein.
Bah oui, parce qu'il faut réunir tout le monde quand même.
On va essayer. Bonjour Daniel Gerkens.
Bonjour Ali.
Directrice de décoration et de Elle à Table. À la une, une bûche au chocolat et à l'orange en léchant la couverture. Et vous publiez chez Hachette avec Mauro Cola Greco, Le goût de la famille, c'est ça?
Tout à fait, qui est un livre, je pense, parfaitement adapté à l'hiver, car c'est gourmand, c'est plein de fritures, c'est plein de plats mijotés. 100% de ce qui a été photographié a été mangé, je tiens à le dire.
Bah, dis donc.
Et tout
vous
a été validé.
En tout cas.
Hein. Plus ou moins, mais enfin bon bref. Beaucoup de vélos. Ouais, c'est un livre qu'on a décidé de faire pendant le confinement, parce que Mauro est tout le temps dans les avions, donc en règle générale, il n'est pas disponible. Et moi, je le connais depuis un moment, et je lui ai dit, mais en fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est aussi un livre sur tes recettes vraiment de famille, parce qu'il a une famille argentine d'origine italienne. Il y a une espèce de brassage assez incroyable. Et ça donne quelque chose, en fait, de très facile, de très familial et très différent de ce qu'on attend généralement des grands chefs.
Et on explorera avec vous quelques réveillons venus d'ailleurs.
Exactement.
Allez, place au livre. Christy Lapelle-Edouel. Alors, vous avez choisi, j'aime bien dire votre nom, Christy Lapelle-Edouel, ça coule très bien. Vous avez choisi le lauréat du prix Psychologie FNAC, Les quatre peurs qui nous empêchent de vivre, d'Eutsemeria, chez Albin Michel. Le titre ressemble à un titre de développement personnel, oui. À la Lise Bourbeau,
oui.
Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Est-ce que c'est du même acabit?
Non, pas du tout, mais je suis d'accord avec vous, Alice, le titre n'est peut-être pas forcément ce qui est le plus réussi dans ce livre. En revanche, le contenu est vraiment très très intéressant et assez formidable. Alors Eutsemeria, il est psychologue, psychothérapeute et psychothérapeute spécialisé en psychothérapie existentielle, c'est-à-dire proche d'un Irving Yalom dont on a déjà souvent parlé.
Grand psychiatre américain.
Voilà, et inspiré de Carl Rogers. Voilà, qui dit En fait, il n'y a pas de malades, il n'y a que des personnes qui ont des difficultés, des êtres humains libres qui sont pourvus de conscience et dotés de la capacité de changement. Toute la philosophie de la psychologie existentielle est là. Alors, que dit-il dans ce livre donc, qui a été choisi et qui porte ce prix psychologie, FNAC ? Il dit « Tout le monde, voilà, l'idée c'est que tout le monde, enfant, adulte, a peur de quelque chose, sans parler des phobies, hein, hors phobies qui sont une chose particulière. La peur de mal faire, par exemple, la peur d'être abandonné ou la peur de prendre la parole en public sont des peurs très communes, mais aucun n'a été pris en compte, aucune de ces peurs, ou l'idée même de ces peurs adultes n'ont été prises en compte dans la psychologie de manière spécifique. Et c'est ce que propose de faire Eutzemeria. Alors, Freud, de son côté, il distinguait les phobies et les vraies peurs, je mets des guillemets. Mais Eutzemeria, lui donc, propose une lecture pour nous permettre d'identifier ces peurs et surtout, évidemment, d'apprendre à les surmonter. Alors, il distingue 4 peurs fondamentales. La peur de grandir ou de devenir adulte, qui est vraiment la base de toute sa réflexion. La peur de s'affirmer, la peur d'agir, de prendre des décisions et la peur de se séparer. À partir de ces 4 peurs, nous pouvons arriver à lire nos comportements et surtout, en réfléchissant à ce qu'elles veulent dire, à changer nos comportements et donc à modifier notre vie et arriver évidemment à vivre de manière plus libre et plus agréable. Alors, ces peurs résultent du conflit entre les pulsions que nous avons et puis nos pensées réfléchies. Et donc, par exemple, Eutzemeria dit les difficultés à s'endormir que nous connaissons pas mal, hein, ici dans cette émission, j'en suis un bon exemple, sont souvent liées à la peur très enfantine d'être seul, de se retrouver seul, de même que la peur du noir. Il y a des adultes qui ont peur du noir, beaucoup d'ailleurs, j'ai découvert ça avec surprise. Et pour surmonter, par exemple, notre difficulté à être adulte, Eutzemeria dit, eh bien, il faut changer de position, sortir de notre position enfantine, par exemple, pour arriver à acquérir une position véritablement d'adulte. Ce qui veut dire accepter, par exemple, de trahir, entre guillemets, nos parents, c'est-à-dire ne plus se conformer à ce qui était attendu de nous et arriver à tracer son propre chemin. Alors, il donne un exemple assez rigolo. Il dit par exemple que beaucoup d'adultes, et vous pourrez faire l'expérience autour de vous, ne disent pas « mon père » ou « ma mère », mais disent encore « mon papa » ou « ma maman ». Et pour Eutzemeria, c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose qui n'a pas été coupé et qui n'a pas permis à l'individu de se développer en tant qu'adulte. Voilà. Et donc, lui dit, il faut renoncer au désir de fusion et à la toute puissance héroïque de l'enfant qui dit, moi, je peux tout faire, je suis super fort, etc. Ce livre, il est clair. Il est éclairant, évidemment. Il est très optimiste. Il est encourageant. Et bien entendu, il est thérapeutique. Donc, je ne peux que vous recommander fortement la lecture de ce livre, Eutzemeria. Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre, et chez Albin Michel, vous l'avez déjà dit.
Allongez-vous sur le divan de Grand Main Vous Fasse. Christine Appelé-Douelle, et dites-nous quelles sont les peurs qui vous empêchent de vivre.
Je vous dirai ça une autre fois, et entre 4 yeux, comme on dit.
C'était le choix donc de Christine Appelé-Douelle, les 4 peurs qui nous empêchent de vivre d'Eutzemeria. Alors Pierre Vavasseur, vous avez adoré l'essai de Jean-Claude Héléna et Lionel Paillès. C'est le petit lexique des amateurs épris d'odeur et de parfum et c'est publié chez Actes Sud.
Absolument. Et sans vouloir cotiser à l'humour facile,
oula,
tout en m'y prêtant quand même, voilà un livre qui sent bon. Non pas le sapin, mais le cadeau de fin d'année sous le sapin. D'abord, il est très élégant à regarder, autant qu'à manier. Chez Actes Sud, vous savez, les volumes savent se faire désirer, imposer une forme de résistance. On les ouvre, hein, il faut vouloir. Ils ont un côté gréco, Juliette, déshabillez-moi, mais pas trop vite. Et le grammage de celui-ci ajoute à cette sensuelle exigence de qualité. Voilà pour le flacon. Passons au contenu. Il est question de parfum, mais sous un angle captivant. Notez, avant d'aller plus loin, que les auteurs en connaissent un brin en matière olfactive. Jean-Claude Héléna, qui est né à Grasse, Patrick Gallimard, mais avec un seul L, est parfumeur. Il a notamment, pendant 14 années, exercé le métier de nez chez Hermès. Lionel Paillès est journaliste essayiste. Les médias en presse écrite, comme en télévision, se penchent avec reconnaissance sur ses expertises. Mmh. Il a eu le nez, lui aussi, de suivre sa passion, humour facile, bis, ne nous refusons rien.
C'est bien pour une première, si vous commencez. Oui.
On va essayer de continuer. En quoi ce petit lexique des amateurs épris d'odeur et de parfum est-il passionnant? Parce que, plus que les parfums, ce sont les mots qui s'y rapportent, 170 en tout, qui occupent ici le devant de la scène, de A comme absolu, à T comme touche à sentir. Vous savez, ce sont ces baguettes en papier buvard que les parfumeurs agitent sous leurs narines pour évaluer le sillage que donne un parfum, et même plus, s'ils prennent le temps, au bout de plusieurs jours, ils arrivent à décomposer les senteurs. Il ne faut pas louper l'avant-propos. Dans ce préambule, Elena et Paillès expliquent qu'ils ont désiré à quatre mains et deux nez montrer que les odeurs et les parfums ne sont ni anodins ni inoffensifs, que l'air qui les porte jusqu'à notre nez nous conduit à inventer des codes, des préjugés, ça c'est eux qui parlent, hein, des sens différents en fonction de nos croyances, et qu'ils influencent manifestement nos perceptions, nos comportements et nos imaginaires. Et de conclure, chaque mot technique, théorique ou sensiblement plus poétique a été choisi pour son sens, son pouvoir d'évocation, parfois même sa sonorité. De fait, ils sont nombreux, ces vocables qui ne m'étaient jusqu'alors parvenus non pas aux narines, mais aux oreilles. Oui, même, hein, toujours, humour facile, toujours. Cueillons au hasard de ce bouquet de senteurs ceux d'enfleurage. Alors, je ne vous donnerai pas les définitions.
Oh, vous êtes pas
gentil. Il faut mettre le nez dans le livre pour les savoir.
C'est quoi enfleurage?
De communel, j'adore ce mot. D'Elional, d'Osmentus, de Pélatrice, c'est magnifique, moi, je trouve. Rien que les mots, ils sentent quelque chose. Les duettistes, moi, je les appelais les duettistes, Ambrox et Attard. Vous savez, il y a Bouvard et Pécuchet, Click and Collect, et maintenant, il y a Ambrox et Attard. Aldéhyde, Marjoliane, pas Marjolaine, Marjoliane, et autres, Coumarine, c'est mon préféré. Cet ouvrage exhale à chaque page une foultitude d'informations sur un art et une industrie qui font songer au principe des poupées gigognes, sans être la proie d'un didactisme qui aurait été plus encombrant qu'efficace. Les auteurs, oui, même moi je ne connaissais pas mon jeu de mots, ils parviennent...
Quelles sont vos peurs, Pierre Lamasseur? Allongez-vous sur
le divan. Micro, en tout cas. Plutôt que parler dans un omicron, mais sinon c'est... les auteurs, ils parviennent les doigts dans le nez. Alors... Ce que je vais résumer un petit peu, on ne parle pas que de choses olfactives. On parle de cinéma, de souvenirs de vacances, de couleurs, d'esthétique, de la peau de l'agrume qui est dans les parfums, le sourire du parfum, les parfumeurs, ça, l'agrume, c'est le sourire du parfum, de l'odeur des villes, et puis je ne veux pas vous priver de celle-ci non plus, de la puanteur flottante du vomi des cachalots.
Ah oui, super. Hein,
parce que quand même, si je ne citais pas, ce serait dommage. Et puis l'un des aspects les plus inattendus de cet essai de savoir-flaire touche paradoxalement à l'envers de son sujet. Justement, les fleurs qui ne sentent rien, les fleurs muettes, les fleurs aphones, la fougère en est une, et figurez-vous qu'il y a un parfum qui s'appelle fougère.
Alors méfiez-vous, parce que Guillemette Audicino, qui est une grande amatrice de parfums, va vous piquer votre petit lexique des amateurs épris d'odeurs et de parfums, publié chez Actes Sud. Christina.
Alors juste un mot, vous avez parlé du flacon d'Actes Sud. Et le flacon d'Actes Sud sent bon. Les pages d'Actes Sud, des livres d'Actes Sud ont un parfum absolument délicieux.
Angèle Ferremag.
Moi, je trouve ça très intéressant dans une période où beaucoup de personnes ont perdu le goût et l'odorat, où ils ont été altérés, d'offrir des parce qu'en fait, ce qu'on appelle le training olfactif, c'est le fait de retrouver son odorat et son goût. Et donc, à travers peut-être les pages, de stimuler la mémoire, ça peut être intéressant.
Daniel Jerkens.
Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'odorat, le parfum, est le meilleur moyen d'ancrer les souvenirs les plus profondément dans notre mémoire. Et c'est vrai que c'est un sens qui, dans notre société, est curieusement sous-utilisé.
Guillemette.
Bah, en fait, pour tout vous dire, je l'ai déjà, le livre. c'est absolument une petite merveille.
Ouais. C'est plein d'humour.
Parce que, évidemment que les odeurs sont ô combien évocatrices, mais les mots, ceux-là particulièrement aussi. C'est-à-dire, ces mots font rêver avant même qu'on en connaisse la définition.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, alors pour moi qui suis, sans doute comme peut-être pas mal d'auditeurs, qui suis très nul sur les décompositions d'odeurs, les goûts de vin, les goûts de thé, etc., qui ne connaît pas grand-chose... Au contraire, d'avoir ces mots-là, en fait, qui sont relativement, rares, surprenants, enfin, dont on apprend dans les sonorités, en fait, ça donne accès à ce que pourrait être la subtilité d'un parfum que, avec mon gros tarin, là, je suis incapable de décomposer. Mais c'est ça qui est intéressant. Il y a une forme de synesthésie, de correspondance entre les mots et les odeurs. Et moi, juste avec les sonorités, j'ai l'impression d'accéder à quelque chose que mes sens ne me permettent pas sinon de découvrir.
Thibaut, vous avez un problème avec votre tarin? Allongez-vous sur le divan de Grand Avoir.
Vous avez la peur de vous amener.
Petit lexique des amateurs épris d'odeurs et de parfums. C'est publié chez Actes Sud et c'est signé Jean-Claude, Elena et Lionel Paillès. 10h23. Allez, il est l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Audicino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Audicino, qui mérite notre amitié cette semaine?
Alors, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ces temps-ci, je rêve de super pouvoirs. Car avec tous ces méchants qui surgissent de toutes parts, on se croirait dans un comic DC ou Marvel... Et que je veux reconquérir, et que je veux laver les cerveaux, et que j'invente des réalités parallèles, et que j'arriverai à voler la pierre d'impunité. Si ça continue, je vais faire appel à ma grande amie Wonder Woman, ou Diana, princesse des Amazones, pour les intimes. Alors oui, elle a été créée en 1941 par un homme, mais pas n'importe lequel. William Moulton Marston, fou de mythologie depuis l'enfance, psychologue, diplômé de Harvard, qui, avant de se retrouver dans l'univers des comics, a, entre autres, inventé un détecteur de mensonges. C'est pour cela que le lasso magique de ma chère Diana impose à ses ennemis de dire la vérité quand elle les saucissonne. Pourquoi un lasso, tout de même, me direz-vous? Parce que ce coquin de William était fan de bondage. Pratique qu'il avait découvert avec sa maîtresse Olive Byrne, qu'il présenta d'ailleurs à son épouse légitime, Elizabeth. Leur ménage à trois fut des plus harmonieux, et c'est grâce à ces deux femmes qu'il devint un ardent féministe. Il faut dire que la mère d'Olive et sa tante, la suffragette Margaret Sanger, avaient ouvert dès 1923, en plein Brooklyn, la première clinique de contraception des États-Unis, qui allait devenir 20 ans plus tard le planning familial. Alors revenons à mon amie si belle, si brune et si puissante que même Batman et Superman croisent fort les doigts qu'elle reste leur alliée. Le premier album de Wonder Woman donc paraît à l'automne 1941, peu de temps après Pearl Harbor. Dès 1943, elle affronte pour la première fois son ennemi juré, Dr Psycho, une petite teigne aux yeux révulsés, animée d'une haine intense des femmes. En 43, un album fait même d'elle la présidente des États-Unis. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, de la même manière que les Américaines qui avaient travaillé pour l'effort de guerre se retrouvent dans leur cuisine avec un joli tablier, la voilà sommée de dissimuler ses pouvoirs sous les habits d'une secrétaire.
Une petite teigne aux yeux révulsés animée d'une haine intense des femmes, ça me fait penser à quelqu'un. Mais bon, heureusement, Guillemette, cela change à nouveau dans les années 60.
Et oui, il faut attendre les années 60-70 pour qu'elle devienne l'icône des mouvements féministes. Une telle icône que même DC Comics en est effrayé et renonce à une petite série d'albums où il était prévu qu'elle saucissonne méthodiquement une série de dangers masculins. Et puis, un jour, bien avant que le cinéma lui offre un blockbuster, la télé en fit une des premières héroïnes de série. Entre 1975 et 1979, ma Wonder Diana, c'était ça.
Elle ne voit rien ni personne. Elle fonce comme un homme. C'est la justicière interplanétaire. Elle jaillit comme un éclair.
Et oui, c'est grâce au petit écran sans télécommande que je la rencontre dans mon enfance, sous les traits de l'ex Miss Monde, Linda Carter, belle à tomber, en short étoilé et corset doré digne de Jean-Paul Gaultier. Linda Carter qui un jour, lors d'un tournage d'un épisode, prit la place de sa doublure pour s'accrocher elle-même et sans protection à un hélicoptère. Alors comme anecdote, ça change un peu de Jean-Paul Belmondo, non ? Il y avait surtout ce délicieux trucage d'un autre temps, rappelez-vous. D'abord en tailleur strict et chignon, elle tournait sur elle-même pour se transformer en Wonder Woman. Et quand j'étais petite, je tournais comme elle, persuadée que ça allait me rendre invincible. Alors je me dis qu'on pourrait se mettre toutes à tourner. À tourner. Ou alors acheter de gros bracelets dorés. Ces bracelets par balles qui, à chaque fois, renverraient le mal ou l'inquisition à l'expéditeur.
Et vous, Thibaut de Saint-Maurice, vous avez tourné comme ça, comme Wonder Woman, dans la cour de récréation, non de...
Oui, de... non, enfin...
Je sais pas, vous êtes très féministe, alors peut-être...
Ah non, mais... un garçon, oui, oui, mais... Et alors... pas besoin, mais... il en a pas besoin.
Et la fluidité du genre, alors, Christine Appelé-Douane.
Ah, oui. Non, non, mais vrai. En revanche, c'est une héroïne qui... J'aime pas tourner dans la chambre, mais c'est une héroïne qui me fascine pour tout ce que Guimette a raconté. Et aussi parce que, au fond... Elle porte dans sa vision, dans son rapport aux hommes, aussi une forme d'humanité réconciliée. C'est-à-dire que, au fond, c'est pas un affrontement ou une guerre des sexes. C'est inspiré par la volonté de réconcilier, en fait, de rendre possible à nouveau une relation entre hommes et femmes qui soit apaisée. Ça, je trouve que c'est en fait hyper moderne.
Bah, c'est parce qu'elle croit à la paix qu'elle bute les méchants, ah. En gros.
Pierre Levasseur.
Et moi, ce que je retiens, c'est que ce bondage crée des liens. Quoi.
Voilà.
Excellent.
Juste une toute petite remarque servicielle, toujours. Le lasso et le fouet pour le bondage, ça va faire très mal, ça va laisser des traces. Il ne faut pas faire ça aux gens qu'on aime, enfin en tout cas pas sans leur consentement. Je recommande une version cheap d'utiliser du film alimentaire, celui qu'on utilise pour. Voilà. C'est adhésif, du coup ça colle à rien, ça s'enlève assez facilement, ça marche très bien, ça contraint très bien.
Dans la prochaine adaptation de Wonder Woman, on va leur proposer le film alimentaire, je pense.
Merci pour ce conseil pratique très serviciel, Maya Mazoret. L'ami du vendredi de Guimette Odissino a partagé en podcast dans un instant les dernières tendance déco de Noël. Notre philosophe Thibaut de Saint-Maurice répondra à la question fondamentale, sapin naturel ou artificiel. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière, Camille Pouc-Jalagui avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée Claire Destomat. Bon anniversaire Claire Destacan. La programmation musicale, c'était Valentine Chedebois. La technique cette semaine, Clément Vuillet et Adèle Caglar. Et on écoute Gossip.
Rainy.
Gossip, interprété Huey Cross.
Vous voulez mon opinion, Thérèse? Thérèse!
Grand bien vous fasse.
Vous voulez mon opinion?
Oh oui, madame Musquin.
Bon.
Allez, Rébéi.
Les enfants sont pourris, vous savez. Alors qu'avec un bout de ficelle et un morceau de carton, ils s'amusent comme des fous. Mais enfin.
Sur France Inter.
10h33, grand bien vous fasse loisir. Tiens, êtes-vous sapin naturel ou artificiel? Là est la question.
C'est un rituel qu'il ne manquerait pour rien au monde. Les deux garçons et leur maman s'animent au pied du sapin, dans les cartons, les souvenirs d'enfance.
Oh, ça c'est le Père Noël que t'avais fait à la crèche, Arthur.
C'est super agréable parce qu'on peut toujours passer une journée en famille. On se rappelle de choses qui sont forcément très joyeuses.
Symbole des fêtes de fin d'année, le sapin de Noël est un incontournable pour les familles. Mais lequel choisir? Naturel ou bien artificiel?
On préfère les sapins naturels, ouais, c'est plus sympa, ça fait plus Noël.
L'odeur et tout, c'est quand même au toucher, c'est quand même plus joli. Je préfère le naturel que le faux.
Les sapins artificiels sont plus jolis qu'avant, je trouve. Et donc, il y a très peu de différence avec le vrai sapin.
Ça garde la magie de Noël sans avoir les inconvénients du vrai sapin qui perd ses épines.
Extrait du JT de France 2 le week-end dernier. Alors Danielle Gerkens, directrice de la rédaction de Elle à table, à l'affût des dernières tendances, reine du bon goût. Vous êtes plutôt sapin naturel ou sapin artificiel? Quelle est la tendance cette année?
Alors, d'abord, réponse personnelle, je n'envisagerais même pas, sous la torture, d'avoir un sapin artificiel.
Oula. Ah,
voilà, c'est juste pas possible.
Pourquoi?
Pour plein de raisons. D'abord, ça sent pas bon. Deuxièmement, ils sont fabriqués en Chine. C'est du plastique et du métal qui est importé par bateau. Donc ça a une empreinte carbone absolument monstrueuse, alors qu'un sapin, ben, c'est un puits de carbone capturé. Voilà.
Selon Julie Lossa, autrice du livre « Mon Noël écolo », le sapin naturel émet 3 kg de CO2 par an, tandis qu'un sapin artificiel en émet 8.
Eh ben oui. Oui, alors on me dira « Ah ben oui, mais on le garde, on le ressort tous les ans ». Il se déplume quand même au fur et à mesure, très clairement. C'est vachement moins beau. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est une hérésie totale. Voilà.
Guillemette Odissino.
Oh bah non, mais la question se pose même pas.
Hein. Ah bah je suis d'accord.
Mais enfin, ça va pas ou quoi? Ah non, mais pardon. Désolé pour les personnes qui parlaient dans l'extrait du JT, là, mais c'est pas possible. Et puis bon, alors... maintenant on a du mal à prononcer le mot tradition sans hein, c'est ça, hein, il y a des mots maintenant,
mais le décembre heureux,
il y a des gens qui nous les confisquent, mais bon, en tous les cas, non, mais c'est vrai, enfin c'est un truc d'odeur, c'est un truc d'aller chez le fleuriste avec ses enfants, c'est un truc aussi de peiner quand on n'a pas de voiture et qu'on se prend le sapin sur le dos ou qu'on le porte à deux avec son enfant comme ça sur le trottoir pour le ramener chez soi, c'est tout un truc, et ça fait aussi partie du jeu, qu'il y ait des épines partout, qu'après on passe le balai pendant 3 ans derrière, que des épines restent coincées depuis 1902 dans le parquet. Enfin, il y a tout un truc. Ça va ensemble et c'est tout. Non mais du plastique, non mais enfin...
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, alors deux choses. La première chose, c'est que je trouve qu'on est très nombreux et très souvent à regretter que Noël perde de son authenticité, que ça soit devenu une fête commerciale, qu'on en fasse trop, etc. On a l'occasion avec le sapin de rester finalement dans une forme d'authenticité quand on prend un sapin naturel, puisque pour le coup c'est le sapin naturel, voilà, on peut maintenir à peu de frais un rapport authentique à la fête. Et puis la deuxième chose, qui est un peu dans la même ligne, c'est que en réalité, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument avoir une position sur cette question-là? C'est-à-dire qu'au fond, il y a aussi une injonction à devoir prendre position entre naturel ou artificiel, et donc à avoir en fait des justifications pour tout ce que l'on fait. Après tout, je n'ai pas envie de répondre au fond à cette question, parce que je n'ai pas envie de prendre position, parce que j'ai simplement envie...
Casque bleu du sapin.
Chute arrive. Et je me tais après. J'ai simplement envie, tu disais tout à l'heure tradition, en fait, j'ai simplement envie de m'inscrire dans cette tradition, de la répéter et de la transmettre aussi, donc continuer à en faire quelque chose de vivant.
Angèle Ferremag.
Et aussi, on peut choisir son sapin qui est bien sourcé et on peut bien le recycler. Il y a beaucoup de parcs dans les villes où on peut...
On ramène les sapins sont hachés menus, ça fait des copeaux et c'est utilisé ensuite effectivement dans les jardiniers.
On peut l'acheter en pot, le planter après dans son jardin si on en a un. Enfin, c'est un organisme, ça peut rester un organisme vivant.
Tiens, écoutons Caroline qui nous a laissé une note vocale sur l'appli France Inter.
Bonjour. Alors à la réponse sapin, vrai sapin ou faux sapin, alors nous on a répondu sapin en palette. Donc, vive le recyclage. Et c'est super beau. Et on peut accrocher plein de boules dessus, comme un vrai sapin. Et d'ailleurs, par chez nous, dans le sud du Vaucluse, il y a beaucoup de communes qui ont mis plein de sapins en palette sur les bords des rues. Voilà. Bonne émission.
Alors, beaucoup d'auditeurs nous laissent des messages, hein, ça fait réagir. Jules qui nous écrit, il n'y a pas que le choix binaire sapin naturel et artificiel, mais surtout un univers de formes de sapins créatifs en divers matériaux. Pinterest peut aider à repérer des idées. Christine Lang nous écrit, je trouve la tendance sapin en bois, fait de lamelles de bois ou même de branches collectées en forêt, très intéressante. Agathe, quand j'étais petite, comme les enfant de Sonia De Villers lors du passage d'antenne, j'aurais menacé de retenir ma respiration pour avoir un sapin naturel à Noël, alors que mon père râlait tous les jours quand il aspirait les aiguilles tombées. Aujourd'hui, je serais plutôt sapin artificiel ou même sapin en tasseau de bois monté sur un axe, justement pour éviter la corvée que mes sœurs et moi imposions à nos parents. Et ça fait réagir. Hein,
le sujet Jerkens. N'est pas neutre. Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même des tendances. On peut se dire que le sapin, finalement, c'est un triangle, grosso modo, vert foncé, sur lequel souvent on met des décorations rouges. En tout cas, c'est la tradition. On voit quand même des petites tendances. Alors là, en creusant un peu, je me suis aperçue que cette année, il y avait une petite tendance autour du sapin asymétrique.
Oui, j'ai vu ça aussi.
Voilà, et du sapin un petit peu, alors certains diront mité, car un peu vite par endroit. Voilà, il y a beaucoup, dans les couleurs, on voit le rouge carmin, le vert olive, le champagne, la couleur champagne qui revient aussi, qui est une espèce de bon compromis entre l'argenté et le doré. Beaucoup aussi beaucoup de végétaux. Le sapin, c'est formidable, mais si vous avez un petit espace, des branches de sapin, un bouquet de branches de sapin fonctionne aussi. Ça peut être aussi des branches d'eucalyptus, beaucoup de pommes de pin, beaucoup de branches vides, entre guillemets. Et côté art de la table, ce qu'on voit pas mal là, c'est beaucoup de dépareillés. Des tables dépareillées avec notamment des services vintage qui reviennent énormément, des services de fin 19e, début 20e. Et sur le sujet des emballages, et là je vous parle, je suis une psychopathe, hein, parce que je viens d'une famille dans laquelle on ne déchire pas les papiers. Autre gros sujet sur lequel on peut s'écharper.
Allongez-vous sur le divan délicatement.
On les plie, on les garde.
Ensuite, on découpe pour enlever les bouts de scotch et on les repasse, madame, oui, pour qu'ils redeviennent plats et puis on les roule. Bon bref, c'est compliqué.
On les garde pour l'année suivante.
Oui, ça fait des cadeaux plus petits, mais ça fait plus de variété sous le sapin. Et donc, pour remplacer ça, on peut faire deux choses vachement bien. Le premier, c'est le furoshiki.
C'est quoi ça?
Qui sont des morceaux de tissu japonais avec lesquels on emballe en pliant simplement et en nouant. C'est très beau et ça évite de jeter.
Redonnez le nom?
Le furoshiki. Et l'autre option qui est quand même super, c'est le papier craft avec des vieux rubans. Vous collez, vous gardez des rubans et c'est magnifique.
En tout cas, me baladant hier dans un supermarché parisien, j'ai été frappé par la tendance dorée, hein, beaucoup de doré dans les décorations cette année. Hein.
Beaucoup de doré, beaucoup de papier doré aussi. C'est très joli, mais ce sont des papiers qui ne se recyclent pas. Voilà, il faut le savoir.
Guillemette.
Non, mais moi, je suis ravie. Là, je veux bien que ça bouge un peu et qu'il y ait des nouveautés. Alors, les sapins asymétriques ou les sapins déplumés, ça, c'est génial. Parce que quand vous achetez votre sapin et qu'il est en fait encore tout enroulé, que vous n'avez pas le temps de le déplier pour vérifier sa forme, et qu'une fois que vous le dépliez à la maison, eh ben, il est tout mité ou il est tout asymétrique. Donc là, maintenant, on va pouvoir dire, ah mais non, mais c'est parce que je suis à la mode.
C'est ton choix.
C'est parfait.
Alors, il est temps de passer à table, Daniel Jerkens, dans le Elle à table. Vous nous proposez de voyager avec des réveillons venus d'ailleurs, viande servie à l'anglaise ou en pastilla, spécialité créole, friture asiatique, bûche au parfum d'Asie. Vous avez quelques idées là à partager pour changer des saveurs habituelles?
Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que Noël, qui est à l'origine une fête chrétienne, évidemment, a conquis le monde entier. Alors, elle l'a conquis parfois avec, effectivement, les conquérants et les missionnaires. Donc là, on était sur des arguments un peu forts, sans doute. Mais la puissance du marketing derrière a fait que c'est une fête qui, aujourd'hui, est reprise un petit peu partout et pas uniquement pour des raisons de croyance. L'Europe, ce qui est caractéristique, c'est que chaque pays a quand même une culture très particulière du repas gras, ce qu'on appelle le réveillon en fait. C'était la rupture du jeûne, parce que dans les jours qui précédaient Noël, on n'avait pas le droit de manger gras. Donc généralement, on mangeait des choses très légères, on avait le droit de... on ne mangeait pas de viande d'ailleurs. Et la veille de Noël, avant d'aller à la messe de minuit, on avait le droit de manger uniquement un peu de pain, un bouillon de poisson, de légumes et de boire de l'eau. Et c'était au retour de la messe de minuit, de la messe de Noël, qu'on mangeait gras. Et ça correspondait à une période, notamment en Europe aussi, où on mettait à mort les cochons, on tuait les cochons et les volailles. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette tradition. Alors, en France, on connaît les classiques. Dans les pays étrangers, au Portugal, on mange un plat bacalao à base de morue, de pommes de terre et de choux. En Italie, il y a le bollisto misto, qui est une sorte de pot-au-feu, servi généralement avec des légumes, des fruits confits à la moutarde. En Allemagne, c'est plutôt l'oie, avec du chou rouge et des pommes. Alors, aux Antilles, on part un peu plus loin, là, c'est jambon de Noël et boudin, créole, boudin noir créole. Pays scandinaves, alors là, ils sont dans une espèce de générosité, puisqu'il y a carrément un buffet, sur lequel on trouve du jambon de Noël, des boulettes de viande, des saucisses, du saumon, du hareng, de la betterave, du chou, des gratins aux pommes de terre et anchois.
Ça plaît à Christy, là, ça. Elle acquiesce à tout ce que vous dites.
Voilà. Et puis, alors, pour alléger, quand même, on finit avec un riz au lait, et du vin chaud, le fameux glögg. Voilà. Donc, effectivement, dans ce numéro du À la table, on a eu envie de partir un peu ailleurs parce que les études montrent que les Français ont très, très envie de voyager. Je suis pas sûre que les frontières actuellement vont nous encourager à partir loin. Donc, on peut le faire à table.
Et c'est à retrouver, évidemment, toutes ces recettes de réveillon, d'ailleurs, dans le À la table daté de novembre-décembre. Alors, dans son livre « Les alimentations particulières », l'anthropologue Claude Fischler se demande si les régimes, les intolérances, les allergies pourraient menacer à terme l'idée de manger ensemble. Comment concilier les différents régimes et intolérances alimentaires autour de la table du réveillon, entre les sans gluten, les sans lactose, les sans viande, les sans sucre? Eh bien, fort heureusement, notre chef Angèle Ferremag est là, et elle a des solutions pour que la commensalité soit préservée en dépit de tous ces régimes singuliers. Alors Angèle, des solutions, quelques solutions pour contenter tout le monde autour de la table du réveillon.
Alors déjà, une très bonne solution, c'est de demander à chacun d'amener un plat, comme ça. Au moins, ceux qui sont radicaux auront leur propre plat.
Votre chronique peut s'arrêter là, Angèle. Merci d'être venue.
Mais sinon, en fait, on peut trouver plein d'alternatives végétales. Alors, je mets quand même tout de suite un point important en avant. C'est que, évidemment, quand on fait des alternatives végétales, ça n'est jamais exactement la même chose, ça n'est jamais exactement le même goût. Et le but n'est pas de remplacer, mais plus de s'amuser à retrouver les textures, les saveurs et d'essayer de faire deviner les uns aux autres. Mais ça ne sera jamais la même chose.
Alors, des idées, quelques petites idées?
Par exemple, on peut faire pour l'apéro, pour ceux qui ne prennent pas d'alcool, au lieu de champagne, on peut servir du kombucha, qui va aider à préparer notre digestion déjà au repas.
Expliquez ce que c'est, peut-être.
C'est une boisson en fait fermentée, c'est une sorte de champignon, c'est un mélange de levure et de sucre.
Il y a aussi eu des levures dans le champagne, si je me permets.
Oui, c'est vrai.
On peut aussi faire un petit caviar végétal. Alors ça, c'est assez rigolo. Ça coûte évidemment 1000 fois moins cher parce que c'est fait à base de graines de chia, de graines de chia. Avec un peu de charbon, on va les réhydrater pour le côté noir, en fait. On va trouver toutes des alternatives comme ça. Donc pour le côté gluant un peu du caviar, on va prendre des graines de chia ou des perles de tapioca. On va les réhydrater dans de l'eau. On pourra mettre du soja, des algues pour le côté iodé, un peu salé, du citron. Un petit peu d'huile de sésame torréfiée pour le côté gras du caviar, et on pourra le servir sur des blinis ou alors avec une petite galette de sarrasin si vous êtes sans gluten, bien sûr.
D'autres idées?
On peut faire du foie gras végétal aussi.
Par exemple.
Alors, ça, c'est un truc que j'aime bien faire parce que c'est assez rigolo. Alors, on va mélanger, la veille, on fera tremper des noix de cajou et des châtaignes dans de l'eau. On l'essorera le lendemain. On mettra du bouillon de champignons séchés. Et ensuite, on va récupérer l'eau du bouillon, on va mélanger avec du sel, du poivre, des épices, pourquoi pas un peu de whisky flambé, du miso blanc si on a, de la levure de bière, de la théine. On mixe tout ça, et pour le côté gras du foie gras au-dessus, on va pouvoir mettre de l'huile de coco fondue avec un peu de curcuma, et ça va faire une petite couche bien grasse. Mais encore une fois, ce sera pas du tout la même chose, mais ça permettra de manger la même sorte de choses pour les convives, et que ce soit un peu plus convivial, que chacun avoir son truc très différent.
Un petit dessert qui peut contenter tout le monde, les sans lactose, les sans œufs, les sans...
Alors pour le dessert, évidemment, on peut toujours tout faire sans gluten, sans lactose, etc. Mais la pavlova, je trouve que c'est une bonne alternative parce que déjà, de toute façon, il n'y a pas de gluten dedans. Mais aussi, on peut faire une meringue végétale à base d'eau de pois chiche. Oui, ça s'appelle l'aquafaba, qu'on va monter en neige comme des œufs.
C'est vrai que c'est assez similaire quand même. C'est assez étonnant.
C'est assez étonnant.
Et ça n'a pas le goût de pois chiche. Hein.
Non, c'est un léger goût salé parce que souvent, on prend de l'eau de pois chiche déjà cuite, donc c'est déjà salé. Mais sinon, ça n'a pas le goût de pois chiche. C'est assez étonnant. Et pour la chantilly, on pourra faire une chantilly végétale à base de margarine végétale, de lait de soja qu'on va d'abord mélanger avec du sucre et de la vanille, et puis le lendemain on le mixera et ça nous fera une chantilly végétale.
Et vous avez apporté une belle pavlova pour l'anniversaire de notre réalisatrice Claire Destacan. Thibaut de Saint-Maurice, sur toutes ces tendances sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans viande, autour de la table du réveillon.
Oui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fond, ça oblige à réfléchir tous ensemble, bon, évidemment, à ce qu'on va manger, mais aussi au fait que se réunir et partager un repas, en fait, ça n'est pas que manger la même chose. C'est aussi partager, comme disait Brillat Savarin, le grand critique de la physiologie du goût au 18e, c'est aussi partager des discussions, des conversations, un temps commun, etc. C'est une convivialité qui se décrit au-delà des aliments. Et puis, il y a une forme de presque d'expérience politique dans ces repas qui apparaissent un peu compliqués. C'est qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une société politique ? C'est des gens qui ont tous des histoires et des goûts et des préférences particulières et qui pourtant doivent vivre ensemble, cohabiter. Et ben, en fait, un repas avec des gens qui ont des habitudes alimentaires ou des comportements alimentaires différents, ça oblige à se recomposer du commun à partir des différences. C'est une sorte de petit jeu de piste. Tu disais tout à l'heure, Angèle, s'amuser. C'est une sorte d'expérience politique en miniature. Au fond, c'est très démocratique.
Guillemette.
Et puis c'est aussi, en fait, là, je pense, une manière de vraiment faire des cadeaux aux gens qu'on aime, parce que ça nécessite de faire un effort. Moi qui suis...
D'attention.
Oui, moi qui suis, franchement...
Viandarde.
On est sur de l'oie rôtie avec... vous voyez, on est sur ce modèle-là. Hein. Mais si... Voilà, mais me mettre dans la position de faire l'effort de cuisiner ça pour les gens que j'aime, c'est encore plus symbolique que de mettre vite fait un cadeau dans un papier cadeau. Donc ça, oui, c'est, je trouve ça intéressant.
Merci, Angèle Ferremag. On peut bien sûr vous trouver sur votre compte Instagram la guinguette d'Angèle. Après les nourritures terrestres, les nourritures intellectuelles avec Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Thibaut de Saint-Maurice, ce matin, vous nous proposez un petit guide d'achat philosophique pour nos cadeaux de Noël.
Oui, Ali, on commence par une petite précaution. Si vous avez des enfants qui écoutent le poste ou qui réécoutent cette chronique, eh bien, éloignez-les quelques instants, parce qu'il va être question du statut d'un certain Père Noël. Voilà, donc j'imagine, cher Ali, que vous, comme nos auditeurs et nos auditrices, vous avez commencé, si ce n'est à faire vos premiers achats de cadeaux, du moins à y réfléchir, à dresser des listes. Hein, vous vous souvenez dont on avait parlé pour moi, à faire quelques premières recherches en magasin ou sur internet. Bref, les deux semaines qui précèdent Noël, hein, nous nous transformons toutes et tous en Père Noël. Et c'est pas une tâche facile si on veut pas que l'ouverture de nos cadeaux, eh bien, ressemble à ça.
Joyeux Noël, Pierre.
Ah, c'est pour moi ? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. Non, ah non, voilà.
J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout.
Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh, oh.
Voilà. Pas de Noël hein, sans Père Noël est une ordure, bien sûr, c'est aussi une tradition, voilà. Et aussi, petit clin d'œil à Thierry Lhermitte, hein, qui vient régulièrement les lundis dans Grand Bien Vous Fasse.
Il sera là lundi, d'ailleurs.
Voilà, de recherche médicale, vous pouvez lui dire qu'on a pensé à lui. Alors, on dit souvent que pour un cadeau, hein, c'est l'intention qui compte. Eh bien, je ne crois pas. L'intention, c'est le degré zéro du cadeau. Alors, certes, l'intention compte, mais toute la difficulté, c'est qu'elle ne suffit pas.
Alors, que faut-il faire pour choisir les bons cadeaux, Thibaut ?
Eh bien, il faut prendre acte que offrir un cadeau, c'est à la fois un acte social et un acte intime, et que les deux logiques demandent à être bien articulées. Noël, c'est un fait social qui s'impose à nous avec l'obligation non écrite, donc, d'offrir des cadeaux à nos proches. C'est une fête à l'occasion de laquelle, en donnant des cadeaux et en recevant, souvent des cadeaux, eh bien nous délimitons le cercle et les différentes catégories de nos relations aux autres. Le grand anthropologue Marcel Mauss, dans son essai sur le don, explique cela en disant que le don exige un contre-don. On donne et on reçoit. On offre donc des cadeaux à ceux ou celles dont on se sent redevable, un peu comme une réponse ou un juste retour. Et à l'inverse, recevoir un cadeau nous fait nous sentir redevable à l'égard de celui ou celle qui nous l'offre. Pour Mauss, ce jeu de don et de dette est à la fois constitutif et à la fois il exprime nos liens aux autres. Dis-moi à qui tu offres des cadeaux et je te dirai quels sont les liens que tu entretiens avec les autres. Toute la difficulté ici va consister donc à bien doser le type de cadeau en fonction du type de relation qu'on entretient. Donc dans ce rapport à l'autre qu'implique le cadeau, celui-ci exprime aussi une certaine vision intime de l'autre. On choisit en espérant qu'il va plaire à celui ou à celle à qui on l'offre. Ça veut dire qu'on exprime à travers ce cadeau une certaine connaissance de ce qu'il aime, de ce qui peut lui faire plaisir, de ses goûts, bref, de sa personnalité. Et on exprime aussi un peu de ce qu'on est soi-même en retour. Le cadeau fonctionne un peu comme une présentation de l'un à l'autre. Et quand il est réussi, eh ben c'est une rencontre réussie de deux sensibilités personnelles. Et c'est justement parce que l'opération est bien délicate qu'on s'en sort parfois en demandant des idées ou des listes. Mais au fond, ça implique de développer en nous une certaine attention à l'autre, de faire preuve de care, comme dit la philosophie américaine, de développer ce care comme une compétence en se préparant plusieurs semaines avant Noël, il est donc encore temps, hein, à se rendre plus précisément attentif aux autres, à les écouter, à écouter leurs besoins, les goûts qu'ils expriment, pour que le cadeau qu'on va offrir plaise bien sûr en lui-même, super bouquin, super vêtement, mais aussi parce qu'il aura une petite voix qui dira au moment où on va le déballer, je te connais et même je t'ai reconnu. Voilà bien toute la difficulté du cadeau de Noël, il est question sur le plaisir de l'autre, il oblige au décentrement et à l'attention, il nous découvre encore une fois bien plus relié aux autres qu'assurés à partir de nous-mêmes.
Rappelez-nous en quelques mots ce qu'est le care peut-être, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, le care c'est un concept qu'a inventé la philosophie américaine contemporaine, donc de la fin du XXe siècle. Care en anglais ça veut dire c'est le soin, c'est prendre soin, et c'est un concept qui est utilisé pour décrire une compétence morale qui consiste à être attentif, à développer cette attention aux autres pour pouvoir répondre à des besoins très spécifiques, non pas à résoudre tous les problèmes qu'ils ont dans la vie, mais simplement témoigner d'une présence, d'une attention à l'autre.
Et vous pouvez podcaster la chronique de Thibaut de Saint-Maurice sur l'appli France Inter, Guillemette.
Mais j'adore cette chronique, et c'est vrai que cette notion du care, elle est importante. En fait, c'est un peu l'inverse de l'expression de la demande. Mmh. C'est-à-dire les gens qui vous disent, ah bah, t'avais qu'à me demander ce que tu voulais. T'avais qu'à m'envoyer exactement la référence du cadeau. T'avais qu'à. Eh ben, non. C'était à lui d'être attentif.
Tiens, Rodolphe Briand nous a envoyé une photo de son sapin de Noël. C'est un sapin en papier toilette. Et la légende, année de merde, sapin en PQ. En plus, c'est recyclable. On peut distribuer aux amis et à la famille les rouleaux après les fêtes. Voilà, merci Rodolphe pour cette photo qu'on va publier sur la page Facebook de Grand-Mère vous fasse. Allez, il est temps de retrouver Maya Mazorette.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Et c'est l'heure de la chronique sexe de Maya Mazorette. Alors Maya, tu nous amènes en voyage dans le monde des sextoys.
Absolument, car je reviens cette semaine d'une visite en Allemagne, une nation qui fait des saucisses, certes, des pretzels, certes, mais aussi des jouets sexuels, ce qu'on appelle les sextoys. C'est en Allemagne qu'a été inventé le pulsateur clitoridien qui a révolutionné la masturbation féminine il y a quelques années. C'est là-bas qu'a été conçue la première norme internationale de sécurité des sextoys publiée en septembre. Et c'est aussi là-bas que se trouve une des plus grosses marques internationales, Fun Factory, fondée il y a 18 ans. J'étais sur leur ligne de production pas plus tard que lundi, et en regardant passer à plat tous les vibromasseurs, essentiellement assemblés à la main, je me suis dit « Bon sang, les Allemands font les sextoys comme ils font leurs voitures ». C'est des gros formats, puissants, fiables, avec des matériaux sérieux. Ensuite, alors bien sûr, le design n'est pas toujours hyper classe, mais c'est efficace, pratique, rationnel. En fait, un sextoy allemand, ça se reconnaît. Et cette petite touche nationale, elle est valable aussi pour les autres pays.
Donc, si on change de pays, on change de sextoy ?
Eh ouais, si on reste en Europe, on a par exemple l'Elo, marque suédoise, c'est beau, c'est chic, c'est horriblement cher. Bref, le design scandinave dans toute sa splendeur. Alors que si vous allez au Japon, la fierté nationale, c'est Tenga. Des objets inventifs, en avance sur leur temps. On ne sait pas toujours exactement à quoi ça sert, ni comment les allumer. Mais c'est très beau, très doux, généralement assez onirique. Aux États-Unis, en revanche, à l'inverse, la marque pionnière, avec plus de 2000 références, c'est Doc Johnson. Alors bon, là, on ne va pas se voiler la face. C'est généralement très, très moche. C'est plein de trucs réalistes, moulés sur des pornstars. C'est horrible, c'est monstrueux. Mais ils ont une force de frappe énorme et l'accent est mis sur la performance.
Et en France, on a quoi ?
Alors, c'est un peu compliqué. On n'a pas de grosses marques internationales, sans doute pour des raisons d'industrialisation, mais aussi à cause de notre légendaire arrogance. En France, on n'a pas de pétrole et on n'a pas non plus de sextoy, parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on est des French lovers. Et c'est dommage quand même, parce que la marque France vaut l'or, du coup on se la fait piquer par d'autres pays. Je pense à la marque Dame, made in USA, à Coco de Mer, marque anglaise, à Jejou de Londres, à Osé de l'Oregon. Alors je ne vais pas crier à l'appropriation culturelle, mais je fais remarquer que le sextoy est une question géopolitique dont s'empare trop peu les politiciens qui prétendent être nationalistes. Avouez que ça aurait une certaine classe de voir débouler les candidats à la présidentielle au salon de l'érotisme. Oh là là. Les journalistes se feraient menacer par des vibromasseurs plutôt que par des fusils de sniper. On serait tous beaucoup plus détendus. Ceci dit, j'exagère, on a quand même quelques petites marques made in France. Ma préférée, c'est What For Her, nom anglais, mais création française. C'est des sextoys au départ pour les lesbiennes, mais maintenant aussi pour tout le monde. J'adore, chez Wet For Her, la culotte Tomboy qui sert à caler un embout peignin mais sans avoir à s'embêter avec un harnais. La femme qui reste sexy en pénétrant sa copine ou son copain, c'est le sommet de notre roman national érotique pour l'instant et qui sait la marque de notre futur soft power retrouvé. À ce titre, si je suis nommée dans le futur gouvernement, mettons ministre de l'économie, du rayonnement culturel et du moral des troupes, j'ai déjà trouvé le slogan du redressement national, aux armes citoyens mais aux sextoys citoyennes, allons amants de la patrie.
Et Pierre Levasseur, vous avez écouté avec beaucoup beaucoup d'attention.
Le redressement national.
Et c'est ainsi que s'achève Grand Main vous fasse. Merci à tous. On peut podcaster la chronique de Maya Mazorette, bien évidemment. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin dans l'émission Bel et Bien sur France 2 avec Agathe Le Caron, Christophe André et André Manoukian. Lundi, dans Grand Main vous fasse avec Arte, on s'intéressera aux manipulateurs anti-vax qui exploitent le désarroi et les interrogations légitimes d'une partie de la population qui doute des éventuels effets secondaires du vaccin.